Il conservera, de l'aristocratie, le respect pour les magistrats, l'aversion naturelle aux soldats pour l'agriculture, les arts mécaniques et les autres professions lucratives, la coutume de prendre les repas en commun, et le soin de cultiver les exercices gymniques et militaires. Je le crois. D'autre part, craindre d'élever des sages aux premières dignités parce qu'on n'aura plus de caractère simple et d'une solidité à toute épreuve, mais des caractères où se rencontrent des éléments divers, choisir des caractères où la colère domine, est trop simple aussi, né pour la guerre bien plus que pour la paix. Faire un grand cas des stratagèmes et des ruses de guerre, et avoir toujours les armes à la main, ne sera-ce pas là le trait distinctif de ce gouvernement? Il y a apparence. De tels hommes seront avides de richesses, comme dans les États oligarchiques. Adorateurs jaloux de l'or et de l'argent, ils l'honoreront dans l'ombre, le tiendront renfermé dans des coffres et des trésors particuliers, et retranché dans l'enceinte de leur maison, comme dans autant de nids. Ils y feront de folles dépenses pour des femmes et pour qui bon leur semblera. Cela est très vrai. Ils seront donc avares de leur argent, parce qu'ils l'aiment et en sont possesseurs clandestins, et en même temps prodiguent du bien d'autrui par le désir qu'ils ont de satisfaire leur passion. Livrés en secret à tous les plaisirs, ils éviteront les regards de la loi, comme les enfants déréglés évitent ceux de leur père, grâce à une éducation à laquelle la contrainte a présidé, et non la persuasion. Et cela parce qu'on a négligé la véritable muse. J'entends l'étude de la dialectique et de la philosophie, et qu'on a préféré la gymnastique à la musique. Voilà la description d'un gouvernement fort mélangé de bien et de mal. Il présente en effet ce mélange. Comme la colère y est la qualité dominante, on y remarque par-dessus tout l'ambition et la brigue. À la bonne heure. Telle serait donc l'origine et les mœurs de ce gouvernement, autant que je puis en esquisser les principaux traits, sans prétendre en faire un tableau achevé, car il suffit à notre dessein de connaître, d'après cette esquisse, l'homme juste et son contraire. Et d'ailleurs, nous nous jetterions dans des détails interminables si nous voulions décrire avec la dernière exactitude chaque gouvernement et chaque caractère. Tu as raison. Quel est l'homme qui répond à ce gouvernement? Comment se forme-t-il? Et quel est son caractère? Je m'imagine alors, dit Adimante, qu'il doit ressembler à Glaucon, du moins sous le rapport de l'ambition. Oui, peut-être par cet endroit, mais en voici d'autres, par où il me semble qu'il diffère de notre ami. Lesquels? Il doit être plus vain, et moins cultivé par le commerce des muses, quoiqu'il les aime assez. Il sera disposé à écouter, mais il n'aura aucun talent pour la parole. Quelquefois dur envers ses esclaves, au lieu de les mépriser comme font ceux qui ont reçu une bonne éducation, il sera doux envers les hommes libres et plein de déférence pour ses supérieurs. Jaloux de s'élever aux honneurs et aux dignités, il y prétendra, non par l'éloquence, ni par aucun talent du même ordre, mais par les travaux guerriers et tous ceux qui tiennent aux habitudes guerrières. Et par conséquent, il sera amateur passionné de la chasse et des exercices gymniques. Voilà au naturel les mœurs des citoyens de cet État. Il pourra bien, pendant sa jeunesse, mépriser les richesses, mais son attachement pour elles croîtra avec l'âge, parce que sa nature le porte à l'avarice, et que sa vertu n'est point pure, destituée qu'elle est de son fidèle gardien. Quel est ce gardien? La dialectique, tempérée par la musique, Elle seule, une fois établie dans l'âme, s'y maintient toute la vie, conservatrice de la vertu. Fort bien. Tel est le jeune homme ambitieux, image du gouvernement timocratique. Tout à fait. Voici à présent de quelle manière à peu près il se forme. Ce sera par exemple le fils encore jeune d'un homme de bien, citoyen d'un État mal gouverné, qui fuit les honneurs, les dignités, la magistrature et tous les embarras que les charges traînent après elles, qui enfin consent à vivre obscur pour conserver son repos. Et comment se développe le caractère du jeune homme ? D'abord, il entend sa mère se plaindre que son époux n'a aucune charge dans l'État, ce qui la réduit à une position inférieure parmi les autres femmes. Et puis qu'elle le voit trop peu empressé d'amasser des richesses, ne sachant pas défendre ses intérêts quand on les attaque, devant les tribunaux, dans des affaires civiles ou politiques, et supportant toutes ses avanies avec lâcheté. Qu'enfin, elle s'aperçoit tous les jours que, tout occupé de lui-même, il la traite avec indifférence. Il entend sa mère, outrée de tous ses griefs, lui répéter que son père est un homme indolent et sans caractère, et sans autre propos que les femmes en pareil cas ne manquent pas de débiter. Sans doute. C'est à n'en pas finir et tout à fait dans leur caractère. Tu sais bien aussi que, souvent, de pareils discours sont adressés en secret au fils de la maison par des domestiques, qui s'imaginent par là faire preuve d'affection envers lui. Et s'ils voient, par exemple, que le père ne poursuit pas le paiement de quelque dette ou la réparation de quelque injure, ils exhortent le fils à faire valoir ses droits lorsqu'il sera grand, et à être plus homme que son père. Sort-il de sa maison ? Il en entend et il en voit bien d'autres. Ici, méprisés et traités d'imbéciles, ceux qui ne s'occupent que de ce qui les regarde. Et là, honorés et vantés, ceux qui s'occupent de ce qui ne les regarde pas. Le jeune homme qui entend et voit tout cela, et qui, d'autre part, entend de la bouche de son père un langage tout différent, et qui voit la conduite de son père en opposition avec celle des autres, se sent à la fois tiré de deux côtés, par son père, qui cultive et qui fortifie la partie raisonnable de son âme, et par les autres, qui enflamment sa colère et ses désirs. Et comme son naturel n'est point celui d'un malhonnête homme, et qu'il est seulement sollicité au mal par les mauvais exemples, il prend le milieu entre ces deux parties extrêmes, et livre le gouvernement de son âme à cette partie de lui-même où réside la colère et l'esprit de dispute, et qui tient le milieu entre la raison et le désir. Il devient un homme altier et ambitieux.